Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Cet écrivain murmure à l'oreille de tous. C'est fou, en effet, comme la prose de David Foenkinos nous concerne tous. Depuis La Délicatesse, triomphe absolu en librairie, couronné par 1 300 000 ventes, en passant par Charlotte, prix Renaudot et prix Goncourt des lycéens, ou encore Le Mystère Henri Pic, devenu un film en salle depuis mercredi avec à l'affiche Fabrice Lucchini et Camille Cotin, jusqu'à ce 16e roman qui restitue, de façon hypnotique, les dérives d'un chagrin d'amour. Ce livre a pour titre « Deux sœurs », il paraît chez Gallimard. Bonjour David Foenkinos.
Bonjour.
C'est un bonheur de vous recevoir.
Moi aussi, c'est un grand bonheur.
Europe 1.
Alors, cher David, Gustave Flaubert, l'auteur préféré de Mathilde, l'héroïne de votre roman, aimait à dire « Madame Bovary, c'est moi ». Rien des travers féminins lui échappait, hein. Aucune faiblesse, aucune obsession, aucune noirceur. Or, vous nourrissez vos personnages féminins avec la même science. Alors d'où vient ce plaisir manifeste à vous mettre dans la tête des femmes quand vous écrivez ?
J'ai le sentiment d'avoir la même implication dans tous mes personnages, y compris les masculins. Mais c'est vrai que j'ai écrit beaucoup avec des personnages féminins davantage. Peut-être que quand on est un écrivain homme, on a une part de féminité. En tout cas, j'aime bien explorer comme ça, notamment dans ce livre-là, mon dernier livre, tout le parcours psychologique de Mathilde, d'aller au plus profond de ce qu'elle peut éprouver. Quand j'avais publié La Délicatesse, j'avais reçu beaucoup de lettres de femmes qui avaient perdu leur mari et qui me demandaient comment j'avais réussi à aller au plus proche de ce qu'elles avaient ressenti. C'est toujours un peu étrange. J'ai le sentiment que quand on écrit, on n'a pas besoin d'avoir vécu les choses, mais simplement de...
Quand on écrit, on n'a pas besoin d'avoir vécu les choses.
Non, mais d'être au plus proche de l'émotionnel, des sensations. C'est très, très étonnant parce que ce personnage féminin qui traverse beaucoup d'étapes dans le livre, j'ai vraiment le sentiment, en l'écrivant, de l'avoir ressenti, d'avoir compris, y compris sa féminité. Mais j'ai ça avec, quand j'écris dans La Délicatesse, je me sens c'est aussi proche du Suédois dépressif. Je suis aussi réalisateur et c'est vrai que j'adore regarder les acteurs, voir comment ils s'emparent d'un personnage. J'ai le sentiment que... Un écrivain doit aussi être dans la capacité d'incarner chaque personnage de ses romans.
Mais alors, ce qui est passionnant, David Foenkinos, dans ce nouveau roman, c'est la question de la sororité. Jusqu'où s'aiment des sœurs ? Est-ce que tout est toujours clair dans les sentiments sous prétexte qu'on a les mêmes parents et qu'on vient du même moule ? Est-ce que, en fait, le bonheur de l'une est supportable quand l'autre est malheureuse ?
C'est exactement le sujet du livre. Ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'une même éducation, un même socle familial peut produire deux destins différents. Est-ce que l'une a une aptitude au bonheur et l'autre au malheur ? On peut se poser la question, puisqu'à un moment donné, le destin fait que les deux vies basculent. Et c'est vrai qu'on va en parler, mais Mathilde souffre énormément suite à une rupture amoureuse. Et le fait de voir le bonheur comme ça de sa sœur accentue d'une certaine manière son malaise. C'est déjà difficile d'aller mal, mais quand les autres autour de vous vont bien, c'est comme une double peine.
Alors, David Foenkinos, vous qui avez un frère, avec qui vous partagez tant de passions, vous faites des films ensemble, vous auriez très bien pu écrire cette terrifiante histoire dans un roman intitulé, par exemple, « Deux frères », et le pitch aurait été « Un homme quitté par la femme de sa vie va s'installer chez son frère, qui, lui, est heureux en couple, le temps que son chagrin cicatrise, mais quand le malheur rencontre le bonheur, eh ben, ça fait toujours des dégâts. » Alors, pourquoi l'écrivain que vous êtes a-t-il préféré écrire « Deux sœurs » ?
Et vous avez raison, la rupture amoureuse, et en tout cas la souffrance sentimentale, n'est pas plus féminin que masculin. Donc, cette histoire aurait pu tout à fait être transposée... avec deux frères, mais justement comme j'ai un frère et avec qui tout se passe très bien d'ailleurs, c'est une façon aussi de m'éloigner de mon propre vécu et d'imaginer peut-être les échos possibles. C'était plus intéressant pour moi d'aller travailler sur cette relation entre deux sœurs, mais je pense que tous les liens familiaux, quels qu'ils soient, peuvent se reconnaître dans l'idée qu'à un moment donné, quand l'un des membres de la famille va mal, on est obligé de s'en occuper, et finalement quand on devient assez vite le bouc émissaire. En tout cas, la personne qui souffre cherche un coupable et il le trouve souvent dans le premier cercle.
Mais la jalousie serait-elle davantage l'apanage du féminin ?
Ah, je crois pas du tout.
Non.
Non, la jalousie, l'envie. Là, on est presque au-delà de la jalousie. On est dans ce qui m'intéressait, c'était qu'on est dans une relation entre deux frères ou deux sœurs de comparaison d'une certaine manière, puisqu'on a le même moule, on a la même éducation.
Avec presque un désir tu de substitution.
Exactement. On est au-delà, pour moi, d'une jalousie qu'on peut avoir avec des collègues ou des gens qu'on croise dans la vie. Il y a quelque chose de l'ordre de l'injustice si on estime avoir été en situation d'échec par rapport à l'autre enfant qui aurait été en situation de réussite.
Dans ce nouveau roman, David Fuenquinos, Deux sœurs, il y a cette question de l'aptitude au bonheur qui souvent est inversement proportionnelle à la conscience qu'on a de la réalité de l'âme humaine. Vous écrivez d'ailleurs « Le vrai problème, c'était les livres ». Mathilde en avait trop lu. On ne pouvait pas être heureux quand on avait trop lu. Tous les malheurs venaient de la littérature. Elle enviait le manque de culture littéraire de sa sœur. Elle enviait cette vie où Flaubert n'était qu'un vague souvenir scolaire. Alors, à vivre avec trop de délices les chagrins des personnages de la littérature, David Fuenquinos, on n'arrive plus à être bêtement heureux dans nos vies.
Oui, en tout cas, c'est Mathilde qui pense ça. C'est vrai que parfois, l'excès de culture peut propulser vers la nostalgie, la mélancolie, une forme de gravité. Elle c'est une pique vers sa sœur qui baigne dans une forme d'inculture puisqu'elle n'aime pas lire et elle a ce bonheur un peu béat. Et donc, c'est une pique quand elle dit ça. Mais c'est vrai que Mathilde, c'est quelqu'un qui est en détresse affective puisqu'elle est quittée par son compagnon et elle a du mal à surmonter cette douleur. C'est une rupture vraiment effroyable. Sa raison d'être n'existe plus et elle a du mal à comprendre son comportement et la façon dont elle va pouvoir survivre. Et parallèlement à ça, elle est professeure de français. Elle enseigne l'éducation sentimentale. Voilà. Elle a le sentiment de comprendre toute la psychologie amoureuse, affective, des personnages de romans, alors qu'elles sont dans la déconstruction de sa compréhension.
Mais ça rend tout plus intense, y compris d'ailleurs le désespoir. Alors, à la page 30 de ce livre, Mathilde, professeure donc de littérature, se dit « Je devrais peut-être aller vivre dans un roman ». Vous, David Fuenquinos, si vous deviez choisir un roman dans lequel vivre, ce serait lequel ?
Mais moi, je vis dans les romans en permanence. C'est ma vie de vivre dans des romans.
D'accord, mais dans
d'ailleurs,
les vôtres.
D'ailleurs,
un roman qui ne soit pas né sous votre plume.
Ah, je pense que je prendrai la première partie de Belle du Seigneur.
C'est vrai.
C'est-à-dire avant le suicide et avant l'effondrement et la noirceur. Mais j'ai toujours été tellement admiratif de Solal, de sa flamboyance. Ça commence comme ça, il arrive déguisé en vieillard sur un cheval. C'est incroyablement romanesque pour séduire la belle Ariane. Donc voilà, si vous me demandez ça, mais pas l'intégralité du roman, voilà, je prends le début, si j'ai le choix.
Voilà, exactement. Alors, juste cette question, avant de faire une très très courte pause, parce que là, vous venez d'évoquer Belle du Seigneur, je crois savoir que à l'âge de 20 ans, vous étiez assez fasciné par la violence des sentiments de la littérature russe, et par exemple les possédés de Dostoïevski. Bon, vous êtes devenu célèbre il y a 10 ans avec un roman intitulé La délicatesse, qui lui était complètement infusé par la générosité des sentiments. Et là, depuis quelques temps, il semble que vous retourniez vers la noirceur. Elle reprend le dessus, vous l'expliquez comment ?
Mais j'aime bien faire des allers-retours. C'est vrai qu'après La délicatesse, il y a eu Charlotte, qui était un livre très grave,
mais oui,
sur la peintre Charlotte Salomon. Puis après, je suis revenu avec une comédie
décédée
littéraire.
Décédée à Auschwitz à l'âge de 26
Charlotte,
ans,
qui était
une peintre
éblouissante. Et c'est vrai que c'est un livre très, très important pour moi. Et je suis tellement heureux qu'il est avec le concours des lycéens, voilà, soit étudié beaucoup à l'école. Au-delà de mon livre, je suis content que les jeunes découvrent cette personnalité de force et de combat et de courage. Et puis après, je suis revenu avec une comédie littéraire, Le mystère en épique. Donc, j'aime bien alterner. Mais là où vous avez raison, c'est que mes deux derniers livres sont empreints de noirceur. Même si ce dernier livre, Deux sœurs, est plus conçu comme un thriller psychologique.
Absolument.
Il y a quelque chose d'assez jouissif de voir jusqu'où elle va aller. C'est-à-dire que je trouve que je n'ai pas écrit le livre dans une forme de dépression absolue. Au contraire, je trouve ça assez excitant de se dire jusqu'où va dériver cette femme et notamment par rapport à sa sœur.
Europe 1. C'est en compagnie de David Fuenquinos qu'on se promène cet après-midi et c'est tellement agréable. Alors, la pause va être très courte. On vous retrouve tout de suite.
Il a trouvé du réconfort dans les livres et se raconte au micro d'Isabelle Morizet. David Fuenquinos est avec nous jusqu'à 16h sur Europe 1.
Méfiez-vous de ce grand jeune homme au regard si doux. David Fuenquinos sait parfaitement manier la noirceur. Son nouveau roman a pour titre « Deux sœurs ». Il paraît chez Gallimard et David Fuenquinos se balade cet après-midi avec nous. Alors cher David, c'est un curieux destin tout de même pour un futur écrivain de grandir dans une famille qui ne lit pas. Voilà, chez vos parents, il paraît qu'il n'y avait pas de livres. Alors comment vos parents aujourd'hui appréhendent-ils vos romans ? Comment les savourent-ils ?
Mes parents sont, comme tous parents, sont heureux du succès que je peux avoir et surtout de l'épanouissement, c'est-à-dire de pouvoir vivre de ce que j'aime. C'est une chance incroyable et puis aussi c'est assez beau puisqu'on travaille avec mon frère, on fait des films ensemble. L'année dernière, on avait fait Jalouse avec Karine
Bien Diard. Sûr.
Donc voilà, il y a un épanouissement qui, à mon avis, ferait plaisir à tous parents. Je sais ce que je souhaite
Mais
aussi à mes enfants.
Mais ont-ils été surpris au début de votre histoire?
Forcément, nous ne sommes pas, mon frère et moi, issus d'un milieu culturel. Quand je dis qu'il n'y avait pas de livre, alors ça les énerve un peu, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de livre. On ne lisait pas, on n'allait pas avoir d'exposition. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de curiosité. Ma mère travaillait Air France, donc on voyageait aussi beaucoup.
Ouais.
Donc j'ai aussi une forme d'éducation culturelle. Mais en tout cas, j'étais moi un adolescent qui ne lisait pas. J'aimais pas lire à l'école. Et c'est vrai que c'est quand je suis tombé gravement malade à l'âge de 16 ans, j'ai passé des mois à l'hôpital. C'est vrai que ça a transformé mon rapport à la beauté, à la lecture, au cinéma, à la musique. Et à ce moment-là, les livres ont cimenté ma vie et sont devenus toute ma vie. Bien sûr, moi, je raconte que les livres ont changé ma vie, mais on n'est pas obligé d'aimer lire. Il faut avoir la chance d'avoir les bons professeurs qui vont vous donner envie d'aimer, de lire des livres qui vont vous plaire, l'entourage, et puis parfois, voilà, c'est un goût qui se révèle ou qui ne se révèle pas. Je pense que potentiellement, tout le monde peut aimer lire. Il faut tomber sur le bon livre.
Alors, 6 ans d'écart avec son frère aîné, c'est presque une génération d'écart. Quand vous aviez 11 ans, il en avait 17. C'est donc lui, le grand frère, qui, le premier, a ouvert une sorte de brèche dans le milieu culturel, puisqu'il a décidé de faire du théâtre alors que vos parents ne vous y emmenaient pas. Mais il a fait du théâtre, il n'est pas devenu acteur, il est devenu d'abord directeur de casting, n'est-ce pas ? Un directeur de casting très réputé. Mmh. Et puis, poussé par Jacques Doyon, il s'est mis à écrire avec vous pour le cinéma. Et quand vous avez connu votre premier triomphe en librairie, David Fuenkinos, avec La Délicatesse, il paraît que c'est votre frère qui a compris que ce livre devait absolument devenir un film. Au départ, vous n'étiez pas très chaud.
Non, mais c'est vrai qu'on travaillait ensemble, on avait écrit des scénarios ensemble, plein de choses qui ne s'étaient pas faites. Parfois, quand on réussit, on a l'impression qu'on a toujours réussi, mais pendant des années, on a eu beaucoup d'échecs et de ratages. Et on avait parallèlement vraiment le désir de faire du cinéma ensemble. On avait fait un court-métrage en 2005 qui s'appelait Une histoire de pied. C'était un truc totalement improbable, un film où on voyait que des pieds. On avait pris des acteurs connus. Ce qui ne servait à rien, puisqu'on filmait que leurs pieds.
Extraordinaire, quel mais... luxe, pour ne voir que leurs pieds.
Voilà, et pendant après, pendant,
il est passé
pendant
où, ce
des années, oh, on peut le trouver, mais bon, vous pouvez vous en passer. Hein. Et puis quand c'est vrai, quand La Délicatesse est sortie en 2009, mon frère l'a lu, il m'a dit, mais arrêtons de chercher, c'est ça qu'on doit faire. Et moi, je n'ai pas du tout écrit ce livre en pensant que ça deviendrait un film. Et ça a été le début d'une aventure extraordinaire parce qu'après, on a rêvé d'Audrey Tautou et puis on est arrivé au bon moment dans sa vie.
Elle vous a
elle
dit
avait
oui.
envie de faire un premier film.
Voilà.
À l'époque, le livre était inconnu. On n'avait jamais fait aucun film. Et c'est vrai que ça a été une aventure magique.
Et puis 5 ans plus tard, Karine Viard vous a dit oui pour Jalouse, que vous avez à nouveau réalisé avec votre frère.
Nous, on a mis du temps. On a mis 6 ans entre chaque
oui,
film.
Oui, vous avez écrit beaucoup de livres aussi en même temps.
Oui,
entre,
oui, mais...
n'est-ce pas?
C'est long, enfin, il faut trouver une bonne idée. Voilà, ça a été encore plus fort peut-être pour Jalouse parce qu'on avait l'expérience du premier film.
Ouais.
Travailler avec Karine Viard, c'est quelque chose que je souhaite à tout réalisateur.
Ah.
Elle est très, très impressionnante, hein. Elle est ouais. très drôle, elle est très intelligente. Et ça a été vraiment un grand bonheur aussi.
Alors, si je dis qu'en Belgique, ils ont les frères Dardenne, aux États-Unis les frères Cohen, et nous, on a les frères Fuenkinos, ça vous fait sourire,
mais
c'est pas si aberrant que ça. Hein.
Oui, ça fait plaisir. Mais il y a beaucoup de... Parfois même, ce sont Nakash Toledano, par exemple, ils n'ont pas besoin d'être frères,
oui.
mais des duos de réalisateurs. Ça, c'est de plus en plus. Et c'est vrai que c'est incroyable, parce que mon frère et moi, on est très, très complémentaires. Ça a été un très grand directeur de casting. Il a travaillé de Jacques Doyon, Téchiné, Godard, jusqu'à Woody Allen, aux Zemeckis. Et c'est vrai que c'est une magnifique carrière. Donc, il connaît les acteurs, il sait travailler avec eux. Et moi, j'adore la technique. Évidemment, j'écris. Et donc, c'est vrai qu'on est très, très complémentaires.
Mais David Fuenkinos, comment réalise-t-on à deux? Quand même, il y a quelque chose qui m'intrigue, parce qu'il y a forcément un avis qui prime. Comment vous partagez-vous les responsabilités sur un plateau de cinéma?
Parce qu'un film, ce n'est pas du tout quelque chose qui s'improvise. Donc, c'est des mois et des mois de préparation. Ce qui est essentiel, c'est de ne pas arriver sur le plateau en disant Audrey Tautou, tu vas à gauche, et puis moi, et mon frère dit tu vas à droite. Une fois qu'on est sur le plateau, on est d'accord pour avoir une vision artistique qui est totalement commune quand on est sur le tournage.
Mais c'est-à-dire que vous écrivez le roman, mais après, vous réécrivez ensemble l'adaptation.
Alors, sur La Délicatesse, oui, j'avais écrit l'adaptation, mais Jalouse, c'est un scénario qu'on a écrit tous les deux.
Ouais.
Donc là, c'est un scénario original. Donc, on prépare ensemble, on choisit tout, du casting, des décors, on en discute. Et en général, je ne vais pas dire que c'est le meilleur avis qui gagne, mais celui qui arrive à convaincre l'autre, ou si on est tous les deux pas d'accord, on va vers une troisième option. Donc aussi, on respecte le point de vue de l'autre. Et on a le sentiment que de notre conversation va naître la bonne solution.
On retrouve tout de suite David Fuenkinos.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie se poursuit en compagnie de l'auteur de La Délicatesse. 15h17, on retrouve Isabelle Morizet.
David Fuenkinos qui fait paraître chez Gallimard Deux Sœurs. Et cet après-midi, mon invité, cher David, on l'a mise à toutes les sauces, hein, cette phrase de Nietzsche, extraite du Crépuscule des Idoles, donc en 1888, ce qui ne tue pas rend plus fort. Pourtant, quand, à l'âge de 16 ans, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, mais quand à l'âge de 16 ans, suite à une infection de la plèvre, on se retrouve à l'hôpital en une expérience de mort imminente, puis qu'on vous opère pendant 7 heures, vous laissant sur le thorax une longue cicatrice qui vous divise en deux, selon votre propre formule, puis qu'on passe presque un an au Kremlin-Bicêtre en soins intensifs, effectivement, il y a un avant et un après. Oui, on imagine très difficilement, en fait, ce que vous avez vécu, adolescent.
C'est vraiment une mutation totale. J'ai l'impression de ne pas avoir la même personnalité après. J'aime bien cette phrase, ce qui ne tue pas rend plus fort. J'ai le sentiment que ça m'a pas rendu plus fort parce que j'ai une part de fragilité qui est liée à tout ça, à la fragilité de la vie. Mais ce qui ne tue pas rend plus sensible. Ouais. J'ai le sentiment que c'est vraiment la sensibilité qui s'est infiltrée en moi. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, cette maladie. Puisque je pense que j'ai développé l'imagination, le goût des autres, le rapport à la sensualité, à la beauté. À la vie amoureuse, voilà, à la musique classique, à la peinture, tout a été différent. Et je pense que c'est pas du tout un hasard si en sortant de l'hôpital, je me suis mis à écrire, ouais. À faire de la musique. J'ai été en école de jazz. La vie artistique, en tout cas l'expression de la sensibilité, s'est imposée à moi à partir de ce moment-là. Et donc ça a rendu, oui, ma vie peut-être plus dense.
Vous n'aimez pas trop, en fait, parler de cette expérience de mort imminente, mais vous reconnaissez depuis croire aux forces de l'esprit.
Oui, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une interview pour Le Monde. Et c'est vrai qu'avant, je racontais que j'avais été gravement malade. Mais j'avais peur de paraître trop mystique en disant vraiment que j'avais vu le tunnel et que j'étais remonté à la vie.
Vous n'osiez pas dire ça ?
Non, parce que c'était très intime et j'avais du mal à mettre des mots. Mais c'est vrai que...
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous osez, David Fuenkinos ?
Parce que je me sens plus en phase avec ce que je ressens. Parce que quand j'ai publié mon livre aussi sur Charlotte Salomon, j'ai commencé à parler des signes, de la façon dont on peut être attiré parfois par des choses sans très bien comprendre pourquoi. J'ai commencé à dire que je croyais en la mémoire des murs, que le passé était présent, que j'ai une grande sensibilité, voilà, sans être totalement illuminé, hein, ce n'est pas du tout mon cas. Je suis vraiment très sensible, voilà, aux signes, et j'ai l'impression que beaucoup de choses sont déjà écrites et qu'il faut savoir les lire.
Mais pourquoi dites-vous que c'était une jouissance avant que l'infirmière ne vous gifle à plusieurs reprises pour vous faire remonter jusqu'à nous ?
Parce que c'était lié aussi à la souffrance. J'avais la plèvre qui était infectée, donc j'avais comme une brûlure, mon corps brûlait. Et c'est vrai que ce moment de soulagement où je suis parti a été comme une jouissance, un soulagement incroyable. Et après, c'est vrai que je pense que tous ceux qui ont été gravement malades, comprennent parfaitement ce que je suis en train de dire et qu'on revient avec une énergie de survivant qui est extrêmement puissante. Ceux qui reviennent même simplement animés de l'amour des autres, la curiosité... l'envie de savourer la vie ou de la voir différemment, voilà, ça me paraît assez évident que quand on a traversé ça, on ne peut pas revenir indemne. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que tous mes livres, finalement, alors qu'ils sont assez différents les uns des autres, parlaient de ça. Ouais. Que ça soit La Délicatesse, Charlotte, Le Mystère en épique ou mon dernier roman Deux Sœurs, il y a à un moment donné
la
une
seconde
vie.
Chance,
exactement.
La seconde vie.
Exactement. Il y a une vie qui est marquée par une brisure, par une rupture. En l'occurrence, pour le dernier livre, c'est la rupture amoureuse, très violente, qui foudroie, qui fait que Mathilde n'arrive pas à avancer puisqu'elle n'a plus sa raison d'être quand Étienne la quitte et qui va devoir se recomposer. Alors, d'une manière un peu violente, certes, mais en tout cas, elle va devoir réinventer sa vie.
Alors, je reviens à vous, David Fuenkinos. Cette très longue cicatrice verticale au milieu de votre thorax, vous pourriez très bien aujourd'hui, en quelques séances de laser, la faire disparaître, mais en fait... Vous refusez parce que vous considérez qu'elle est consubstantielle à ce que vous êtes.
Oui, c'est étonnant que... Oui, c'est très juste. Je me suis posé souvent la question comme ça de la réparation. Et en fait, je crois que c'est très important pour moi d'être lié aussi physiquement, même si c'est une cicatrice qui m'a souvent, comment dire, quel est le mot exactement, complexé, voilà, pardon. Mais j'ai appris à vivre avec. Et puis surtout, je suis heureux d'avoir un lien permanent avec mon passé aussi d'une manière physique. Et ça me paraît assez important.
En 1991, quand l'ado de 16 ans que vous étiez a passé ses longs mois au Kremlin-Bicêtre, le portable n'existait pas. Internet n'existait pas, aucune connexion en fait avec le monde extérieur, pas d'iPad, pas d'écran, pas d'ordinateur. Mmh. Donc vous avez fui dans les livres. Vous nous avez dit, la révélation, ça a d'abord été Belle du Seigneur. Il y a eu Dostoïevski. En fait, quels ont été les auteurs qui vous ont pris par la main, vous, l'ado qui ne lisait pas ?
Mais vous avez raison, c'est vrai que l'absence de contact avec l'extérieur en 1991 a sûrement été déterminant. Peut-être que les choses auraient été différentes si j'avais pu être sur Facebook ou continuer à
vous
échanger.
Vous ne seriez peut-être pas devenu écrivain.
Ben oui, non, ça soit avec du Wi-Fi, je ne serais pas devenu
avec
écrivain.
Avec du Wi-Fi, David Fuenkino, ce ne serait pas écrivain.
Oh non, on va garder cette phrase après. Non. Mais c'est vrai que les livres, à ce moment-là, ça a été extraordinaire. C'est absolument évident d'imaginer que la littérature nous fait voyager. J'ai commencé à pouvoir aller en Russie, aux États-Unis, un peu partout, tout en restant dans ma chambre d'hôtel. À vivre des vies incroyables. On parlait tout à l'heure de Solal, notamment d'Albert Cohen. Et donc voilà, simplement de pouvoir vivre à travers les mots. Et puis j'avais le sentiment, alors je pensais que la littérature c'était qu'une histoire, c'était qu'une affaire d'histoire ou de raconter une histoire. J'ai commencé à être sensible véritablement à la beauté des phrases, de la langue, ouais. de la langue française. J'ai lu aussi de la poésie et j'ai commencé à être vraiment touché et émerveillé par tout ça.
Voilà, les graines étaient semées. On s'interrompt un bref instant et on retrouve tout de suite David Fuenkino, qui vient de faire paraître chez Gallimard Deux Sœurs.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, en compagnie d'Isabelle Morizet et de son invité.
Voilà, c'est simple, il est très exactement l'auteur qu'on aimerait tous avoir pour ami. Je reçois David Fuenkino, qui publie chez Gallimard son 16e roman, Deux Sœurs. David Fuenkino, la première phrase de la première page du premier de vos romans publiés, vous vous en souvenez ?
Non. Alors là, je me souviens de la première
Et
phrase
pourtant,
de La délicatesse, de Charlotte.
La toute première phrase
pourtant,
publiée.
Oui. Là, ça m'échappe au moment où vous me le demandez.
Parce qu'on dit toujours que la première phrase d'un livre, l'incipit, donc, ouvre la porte sur l'imaginaire de l'auteur. Et puis, on en connaît de fameuses comme... Longtemps, je me suis couché de bonne heure. La première phrase de Marcel Proust dans La recherche du temps perdu. Ou encore, aujourd'hui, maman est morte. La première phrase d'Albert Camus dans L'étranger. Chez vous, la première phrase, elle s'impose tout de suite ou bien souvent, en cours d'écriture du livre, vous avez la tentation d'en changer ?
Ah non, elle ne s'impose pas tout de suite. Elle est très importante, vous avez raison. C'est vraiment comme le prénom d'une personne. Ça donne une tonalité très très forte. Je sais que quand j'ai mis 8 ans à écrire sur Charlotte Salomon, pour mon livre Charlotte, on voit que la mort plane en permanence dans sa vie et j'ai mis du temps à trouver cette première phrase qui dit que Charlotte a appris à lire son prénom sur une tombe qui est le prénom aussi de sa tante qui s'était suicidée quelques années avant sa naissance. Et je me suis dit, tiens, ça c'est une image très très forte qui donne la tonalité. C'est très très important, je trouve.
Mais oui, vous avez un métier singulier de toute façon, David Fuenkinos, écrivain. Bon, est-ce que l'imagination, ça s'entretient ?
Je ne crois pas, c'est très étrange parce que moi, je n'étais pas issu d'un milieu littéraire, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Je n'ai pas fait des études d'imagination. Souvent, forcément, on me demande des conseils, à part la curiosité ou le fait d'écrire tous les jours. Je ne peux pas dire davantage parce que je ne sais pas comment les choses se sont formées. J'écris des livres de fiction, j'ai souvent plein d'images en tête qui viennent... Et j'essaie de ressentir les choses, mais ça reste toujours un peu improbable. J'ai comme l'impression parfois d'être comme infidèle à moi-même, qu'il y a quelque chose d'autre qui se trame.
Mais c'est formidable ça, d'être infidèle à soi-même pour créer. En tout cas, dans les premiers chapitres de votre vie, pour reprendre justement une formule qui évoque la littérature, et ben vous n'êtes pas tout de suite avoué écrivain. Vous avez fait une école de jazz en même temps que Lettres à la Sorbonne, vous avez été prof de guitare, vous rêviez d'ailleurs, paraît-il, de monter un groupe de jazz rock dans l'esprit de Frank Zappa, que vous adorez. Et puis un jour de l'année 2002, plusieurs mois d'ailleurs après que vous ayez envoyé un manuscrit, et ben la maison Gallimard vous appelle. Gallimard quand même.
Oui, c'était incroyable. Et puis surtout, c'était mon premier. Moi, je n'osais pas du tout envoyer mes manuscrits. Entre 16 et 26 ans, j'écrivais tous les jours. Mais sans penser qu'un jour je serais écrivain ou que je serais publié, enfin ça me paraissait assez improbable. Et puis j'envoie ce manuscrit que tout le monde refuse. Et quelques mois après, j'ai effectivement ce coup de fil des éditions Gallimard. C'est comme si vous alliez à une soirée et que la plus belle fille venait vous parler, quoi, d'une certaine manière. J'ai cru que c'était une blague jusqu'au dernier moment quand je suis arrivé chez Gallimard, j'ai cru que c'était pas vrai, quoi. Et
alors,
puis j'ai rencontré mon éditeur qui...
Jean-Marie Laclaftine,
ouais.
C'est ça,
ouais,
qui a changé votre vie.
Ouais, Jean-Marie Laclaftine qui va publier un roman là, vraiment bouleversant, très 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 personnel, qui s'appelle une amie de ma famille. Oui, il a changé ma vie, cet homme-là. Je ne le connais pas bien, hein, parce qu'on a tout un parcours ensemble depuis 15 ans. Mais je sais que c'est un regard très important sur mes livres. C'est le premier qui a porté ce regard, qui a cru en moi. On a retrouvé la note de lecture plus tard qui dit que il avait noté c'est bordélique, c'est foutraque, mais ça vaut le coup d'essayer. Et c'est incroyable parce que c'est vrai qu'on a fait un long cheminement pendant 10 ans. Mes livres ont eu assez peu de succès, mais ils continuent à me publier, à croire en moi, à suivre mon évolution. On a tous été surpris par le succès de La Délicatesse, qui était improbable, sorti de nulle part, puisque le premier tirage était 4000 exemplaires. Et puis après, quand j'ai écrit un livre plus grave, Charlotte, Jean-Marie Laclaftine et les éditions Gallimard étaient derrière moi. Et c'est vrai que quand j'ai eu le prix Renaudot et le concours des lycéens,
et oui,
c'était magnifique de se dire, voilà, on a un long chemin ensemble.
Mais alors, expliquez-moi, effectivement, pendant 7 ans, vos livres se vendaient autour de 6000, 8000 exemplaires.
Ah oui, même moins.
Voilà qu'en 2009, donc, La Délicatesse que Gallimard avait fait d'abord tirer à 4000 exemplaires se met à exploser en librairie. Au total, le livre se vend à 1 300 000 exemplaires. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce roman, finalement, qu'il n'y avait pas dans vos premiers livres?
Ça, c'est impossible pour moi de le savoir à ce point-là. Peut-être que j'étais dans l'air du temps avec ce mot, la délicatesse. C'est surtout en poche que le livre est devenu un grand phénomène. Il est resté numéro 1 des ventes pendant 1 an et demi. C'était totalement improbable. Peut-être que ce mot a touché les gens. La forme, en fait, le mélange de gravité, c'était une femme qui perdait son conjoint. Et puis, c'est un livre avec de l'humour, puisqu'elle tombait amoureuse d'un Suédois un peu dépressif. Et puis, c'est marrant parce que je me souviens, il y avait, par rapport à votre question, il y avait un critique qui avait dit « Oui, je comprends le succès de ce livre. Il a toutes les recettes du succès. » Et j'avais envie de lui dire, mais ça fait 10 ans que je vis avec mon fils dans un 2 pièces et je déplie clic-clac. Si je connaissais les recettes du succès, non seulement je les aurais appliquées avant, et puis tout le monde... Il n'y a pas de recette, en fait, à un succès.
Mais en même temps, ça doit mettre une pression dingue pour les romans qui suivent. Parce que, effectivement, ça a été un triomphe absolu en librairie. Je le rappelle, 1 300 000 exemplaires. Mais c'était le seul des 700 livres de la rentrée littéraire en 2009 en lice pour absolument tous les grands prix. C'était du jamais vu.
Oui, c'était assez. C'est vrai que c'est un livre qui est devenu après un livre très grand public, avec ce que ça peut comporter parfois de critiques en France.
Mais qui a commencé par être dans la liste de tous les grands prix.
C'était un livre publié à la rentrée littéraire chez Gallimard, en lice pour le Goncourt, le Féminin, le Renaudot, le Médicis, l'Interallié, le seul de la rentrée. Donc c'était assez improbable, en fait, comme destin pour ce livre-là. Et puis c'est vrai qu'après, on a eu la chance de faire le film avec mon frère, avec Audrey Tautou et François Damiens. Et le film a voyagé dans le monde entier aussi, parce que grâce à Audrey Tautou, qui est une star internationale. Et c'est vrai que son accord aussi pour faire le film, à un moment donné où le livre n'était pas encore connu, a été très important pour le succès.
Alors, est-ce que Charlotte, ce livre qui, lui, vous a valu en 2014 le prix Goncourt des lycéens et le prix Renaudot, va enfin devenir un film?
Oui, il y a eu des déceptions. Voilà, c'est long de monter un projet. On revient sur un projet plus franco-allemand, si j'ose dire. C'est-à-dire vraiment, ça va se passer en langue allemande, la première partie, et qui va vraiment retracer la vie de Charlotte Salomon. Donc, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment.
Mais alors, vous n'allez
moment.
Pas co-réaliser
non,
cette fois-ci
alors,
avec votre frère,
non,
Stéphane?
Non, Stéphane et moi, depuis La Délicatesse, en fait, on ne veut pas réaliser à nouveau une adaptation d'un de mes romans. Charlotte, je me sens totalement pas du tout à la hauteur pour faire un tel film.
Pourquoi dites-vous ça?
Parce que j'ai mis 8 ans à écrire ce livre. C'est le livre le plus
important. Vous écrivez un livre qui a eu le Goncourt des lycéens et le prix Renaudot.
Je ne me sens pas capable d'aller filmer un film qui se passe dans les années 20, 30 en Allemagne et puis dans les années 40. Et je sais que je ne serais pas capable de le filmer.
Vous écrivez...
Pourtant, j'écris le scénario, ou en tout cas une partie du scénario, parce que je suis le psychopathe le plus absolu de Charlotte Salomon. Donc, je connais toute sa vie. Donc, évidemment, je vais participer au film.
La formule est jolie. En ce qui concerne l'adaptation au cinéma, en ce moment, avec à l'affiche Camille Cotin et Fabrice Lucchini du Mystère Henri Pic, c'est vous qui avez signé l'adaptation ?
Non.
Non plus ?
Non, et j'en suis vraiment ravi parce que j'ai beaucoup de propositions quand le livre est sorti. Et j'étais très heureux que Rémi Besançon ait envie de le faire. Il avait fait ce merveilleux film Le premier jour du reste de ma vie. Et c'est vrai qu'il m'a dit, je vais l'écrire avec sa compagne Vanessa Portal. Et je lui dis, très bien, connaissant son cinéma, connaissant la vision qu'il avait du livre, j'avais confiance en lui. Et c'est vrai qu'il a fait un scénario formidable. Ils ont convaincu le grand Fabrice Lucchini. c'est vrai que le film est vraiment réjouissant, quoi. Le duo Camille Cotin-Fabrice Lucchini est très excitant. Il mène une enquête littéraire avec beaucoup d'humour et de fantaisie. Et c'est vrai que cette adaptation, elle est judicieuse parce qu'il prend cette partie-là du livre, cette partie de la comédie policière autour d'un manuscrit retrouvé dans une bibliothèque improbable, la bibliothèque des livres refusés. Et c'est vrai qu'il y a d'autres choses dans le livre, il y a d'autres personnages, mais j'ai été très admiratif de cette adaptation. Et je suis fan du film.
On retrouve tout de suite David Foenkinos.
Il est 15h39, on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, une conversation à deux voix en compagnie d'un écrivain aujourd'hui.
Avec son nouveau roman, David Foenkinos explore les dérives glaçantes de la passion amoureuse. Ce livre a pour titre « Deux sœurs ». Il paraît chez Gallimard et cet après-midi, on se balade en compagnie de David Foenkinos. Cher David, vous explorez donc souvent dans vos romans le thème de la seconde chance, voire de la seconde vie. Et justement, ce nouveau roman qui paraît chez Gallimard n'échappe pas à ce fantasme qui résoudrait tout, mais à quel prix cette fois-ci, ai-je envie de dire ? Alors je dis à quel prix, car la fin de l'histoire, effectivement, est terrifiante, et vous posez cette question dans le livre. Peut-on devenir méchant à l'épreuve de la souffrance ? Si la vie me violente, alors je deviens violente, se demande votre héroïne.
Oui, et oui, j'en ai le droit. C'est très juste de souligner cette... Alors, il ne faut pas raconter, évidemment, la fin et la destination de la dérive de Mathilde, mais vous avez raison, elle se pose la question, à un moment donné, de cette mutation qu'elle ressent, parce qu'elle a été violentée par la vie. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était de voir jusqu'où la souffrance pouvait mener. C'est quelqu'un qui... J'avais envie de raconter vraiment la rupture amoureuse, mais comme une déflagration, une dévastation. Surtout que c'est terrible, puisque après 5 ans, l'homme qu'elle aime retourne avec sa précédente compagne. Mmh. Et comme une double peine dans cette violence sentimentale, elle a le sentiment d'avoir été une salle d'attente comme ça dans le cœur de cet homme. Et donc, sa raison d'être n'existe plus. Elle a du mal à pouvoir simplement avancer ou respirer. Et donc, elle va se laisser dériver. Et cette souffrance-là, finalement, va la propulser alors qu'elle était quelqu'un d'incroyablement bienveillante. On disait d'elle qu'elle était la bonté incarnée. Ouais. Elle est adorable avec ses élèves en tant que professeure de français. Va la propulser finalement dans une hargne contre
les
autres.
Oui, d'ailleurs, vous écrivez, cette haine nouvelle devient comme une pulsion de vie.
Oui, mais de toute façon, ça peut exister hein, quand on est violenté par la vie, par la fatalité. La difficulté d'une rupture, c'est que c'est pas comme un fait de vie ou parfois une maladie où on a le sentiment de pouvoir se battre ou que notre énergie va compter. Là, il y a une forme de couperet qui tombe et c'est fini. On ne peut plus rien faire. La personne vous dit « je te quitte, je ne t'aime plus » et elle se bat contre une armée de fantômes. Et finalement, elle a besoin d'un ennemi, elle a besoin d'une force de combat, elle a besoin d'exprimer sa souffrance à travers la violence. Alors, ce n'est pas tout de suite, parce que d'abord, elle est dans une souffrance léthargique. Mais après, c'est vrai que quand elle va être recueillie chez sa sœur et qu'elle va avoir le bonheur de sa sœur et vivre au cœur, c'est comme si finalement, elle se retrouvait aux premières loges de la vie qu'elle aurait dû avoir.
Exactement.
Et c'est terrible comme image. Elle voit sa sœur qui vient d'avoir un enfant, elle est heureuse en couple et elle se retrouve là au sein de ce foyer.
C'est le scénario de sa vie rêvée.
Exactement. Mmh. Et elle ne comprend pas pourquoi d'ailleurs, ce n'est pas sa vie. Et c'est ce qui va être le début de sa mutation.
Alors, il y a un autre questionnement dans votre roman, David Foenkinos, mais cette fois-ci sur la souffrance. Et vous écrivez « La première à être témoin du drame était celle qui allait souffrir. Elle allait attraper la souffrance comme on attrape une maladie. » Vous parlez de votre héroïne qui, enfant, avait entendu le hurlement de sa mère apprenant au téléphone la mort de son mari, alors que sa sœur, elle, dormait paisiblement. Donc, celle qui a vu la douleur est prisonnière de la douleur.
C'est une image que j'ai estimée, en tout cas littéraire, puisque le livre pose la réflexion de deux destins identiques, en tout cas dans leur origine, qui après ont des parcours diamétralement opposés. L'une serait apte au bonheur et l'autre au malheur. Et donc j'essaie de trouver la source dans ce fait, vous avez raison, de l'enfance, où quand leur mère apprend la mort de son mari, elle crie, et c'est Mathilde qui entend le cri, et alors que sa sœur Agathe dort. Et donc, il y a un décalage entre Agathe qui vit encore dans le bonheur de ne pas se savoir orpheline, comme si elle avait grappillé à ce moment-là du bonheur, et puis plus tard, comme ça, Elle regarde des photos de l'enfance et elle se rend compte que sa sœur est toujours plus souriante qu'elle. Mais elle ne s'était pas rendue compte. Comme si finalement, d'une manière un peu folle, il y a des signes avant-coureurs de ce que va être notre destin, en tout cas nos aptitudes à pouvoir réussir ou pas notre vie.
Alors, quel est votre chemin à vous, David Foenkinos, vers la consolation quand vous apprenez quelque chose de funeste?
Moi, je me suis... c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de la maladie, on parlait du fait d'avoir été gravement malade. Ça propulse vers une énergie pas optimiste ou, bienveillante à tout va, mais d'une certaine manière, j'essaye toujours quand même de voir le bon côté des choses. Donc, évidemment, comme chacun d'entre nous, je traverse des moments parfois difficiles et j'essaye, du mieux que je peux, de les relativiser.
Ouais.
Dans les affres du quotidien, j'ai le sentiment que la sensualité ou ce qu'on estime être la beauté peut nous apaiser.
On retrouve tout de suite David Foenkinos.
Et en raison de l'actualité littéraire, Isabelle Morizet reçoit un écrivain aujourd'hui. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. On arrive au terme de l'entretien.
J'ai avalé d'un trait le récit de son nouveau roman, qui a pour titre « Deux sœurs » et qui paraît chez Gallimard. Son auteur, David Foenkinos. Cet après-midi, mon invité, votre invité, cher David Foenkinos, pourquoi relisez-vous Belle du Seigneur tous les 10 ans?
Pas que ce livre, mais j'aime bien l'idée de pouvoir relire les livres qu'on a aimés. C'est là que je vois que j'ai pris un peu d'âge pour dire ce genre de choses. Mais c'est vrai que Belle du Seigneur, c'est un livre quand même sur l'amour, sur la mélancolie, sur la difficulté parfois de la passion. Et c'est vrai que forcément,
j'ai pas le même... Et à chaque lecture, vous découvrez quelque chose de différent.
Totalement. On a, de toute façon, au-delà de la littérature, on évolue en permanence, on n'a pas le même point de vue sur les choses. J'ai adoré me dire qu'à 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, j'ai pas vu la même chose dans ce livre et dans d'autres livres.
Alors, parmi les choses romanesques inattendues que vous faites, David Foenkinos, j'ai appris que vous alliez souvent sur la tombe de France Gall et Michel Berger, au cimetière Montmartre. Que leur dites-vous intérieurement?
C'est lié à une admiration incroyable hein, pour ces deux artistes. France Gall, je l'écoute depuis que je suis tout petit, vraiment. Je l'aimais profondément. Ce duo avec Michel Berger, voilà, comme beaucoup de gens, hein, on est sensible à ce qu'ils ont partagé avec nous. Après, c'est vrai que j'ai un rapport un peu étrange parfois à la mémoire, au passé. J'adore aller me promener dans les cimetières. Au cimetière Montmartre, il y a aussi la tombe de François Truffaut.
Oui.
Qu'on évoquait.
Ouais.
Et c'est vrai que j'ai beaucoup de scènes, finalement, dans mes romans de cimetières, mais qui ne sont pas forcément tristes. Hein.
Ouais.
Dans les souvenirs, par exemple, et d'ailleurs, quand Jean-Paul Rouve a fait le film, ça a été tourné au cimetière Montmartre.
Il ouais.
Y avait toute une scène de séduction, et finalement, le film se termine avec la naissance du couple dans ce cimetière-là. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est une façon de passer du temps avec le passé. Je ne vais pas dire les morts, il n'y a aucune morbidité. Mais c'est simplement aussi me rendre compte que les souvenirs, la mémoire, c'est présent dans tous mes romans, dans Charlotte énormément, bien sûr, mais aussi dans les souvenirs, et que je me sens toujours comme ça, accompagné des gens que j'ai aimés ou des gens qui ont été importants.
Alors, vous êtes l'auteur qu'on connaît maintenant depuis de nombreuses années, mais vous étiez musicien avant, vous étiez même professeur de guitare. Il y a une chose qui m'intrigue, parce que on a évoqué tout à l'heure Frank Zappa, quand vous aviez 20 ans, vous rêviez de monter un groupe de jazz rock dans la veine de la musique de Zappa. Et en fait, vous adorez les chansons de Berger et de France Gall.
Oui, mais c'est vrai que Zappa et puis le jazz, j'ai découvert ça après ma maladie. Je suis devenu boulimique, mais j'ai découvert aussi bien Schubert que Miles Davis. C'est vrai que j'ai tout voulu connaître. Donc après, c'est vrai que j'ai eu ma période comme
même
ça.
Même boulimique en littérature.
Voilà, exactement. En peinture, enfin, j'ai voulu tout connaître, tout apprendre, essayer de savoir le maximum de choses. Et ça m'a tellement nourri et enrichi. Et c'est vrai que quand j'ai fait de la musique, j'étais plus proche du jazz ou du jazz rock. Et j'adorais Frank Zappa. Mais les chansons que j'écoutais jeune, voilà, comme France Gall et Michel Berger, m'ont accompagné. Et finalement, je suis revenu à des fondamentaux. Maintenant, j'écoute plus ça ou Juliette Armanet.
Alors, on évoquait tout à l'heure cette fameuse phrase de Dostoïevski, la beauté sauvera le monde, il faut le souhaiter. Et ça me fait songer à ça. En fait, comme Stéphane Guillon m'en a invité le week-end dernier, eh bien, vous dites, en fait, j'aimerais que mon fils, qui est adolescent, ait davantage de connaissances sur Botticelli que sur les fractions. Donc, vous considérez qu'il y a vraiment urgence à regarder le monde autrement?
Bon, là, je veux pas mettre les professeurs de Matado, hein, mais je suis totalement.
C'est pas du tout.
Non,
le
mais
propos.
Je suis totalement d'accord. Totalement
comprend,
d'accord.
Voilà avec, ce que véhicule la phrase.
Avec ce qui vient d'être dit. Hein. Je trouve que, bien sûr, l'éducation par l'art. Alors, c'est vrai que les professeurs font aussi beaucoup de sorties scolaires, beaucoup d'efforts pour essayer voilà, d'éduquer, mais je trouve que c'est pas assez. L'histoire de la peinture, de la musique, du cinéma sont les choses qui peuvent nous nourrir et nous faire comprendre le monde. Parfois bien davantage que d'autres matières.
Votre monde à vous, David Fuenkinos, donc on y accède bien sûr par les romans, mais aussi par le cinéma, puisque je le rappelle, depuis mercredi, l'adaptation du Mystère Henri Pic est en salle avec à l'affiche Fabrice Lucchini et Camille Cotin. Alors c'est Rémi Besançon qui s'est emparé de l'adaptation et qui a réalisé. Vous êtes allé sur le tournage ?
Très peu, parce que je suis aussi réalisateur, donc je ne voulais pas encombrer de la présence de l'auteur qui vient voir. Je suis passé qu'une heure en deux mois. Je voulais aller quand ils sont allés en Bretagne, parce que j'ai adoré écrire, que le livre se passe comme ça en Bretagne.
Ouais.
Mais je n'ai pas pu y aller. Mais j'avais des nouvelles. Hein, ils m'envoyaient des photos, ils me tenaient au courant que le tournage se passait très très bien. Et ça se voit dans le film. Le film est vraiment réjouissant et drôle. Et c'est vrai que Fabrice Lucchini a fait quelques émissions pour défendre le film en disant à quel point il aimait ce film. Et je sais que c'est sincère parce que non seulement le film est réussi, mais lui est particulièrement touchant, je trouve, dans le film.
Mais ça doit être très étonnant de voir les héros qui ont habité votre imaginaire vivre leur vie sur grand écran en étant incarnés ainsi. Alors, Lucchini, Cotin, ce sont des tempéraments forts. Qu'est-ce qu'ils apportent au personnage et à l'humeur du film ?
Par exemple, pour mon premier film, quand j'ai écrit ce couple de Nathalie et Marcus et que j'ai vu incarné par Audrey Tautou et François Damiens, c'était génial. Il était le personnage.
Ouais.
Et j'avais l'impression qu'il sortait de... il est belge, tout le monde le sait, mais il avait vraiment la tête de ce Suédois dépressif qui était exactement celui que j'avais décrit. Et ça a été magique de voir... comment finalement les acteurs arrivent à incarner, mais à enrichir, à faire vivre le personnage. Cet enquêteur littéraire, ce critique littéraire voilà, sur le déclin un peu pathétique, qui va se mettre à faire une enquête policière pour découvrir qui a vraiment écrit ce manuscrit. Je l'imaginais sous la forme un peu d'un Fabrice Lucchini, mais un peu délavé, quoi. Et c'est vrai qu'il est peut-être un peu plus flamboyant dans le film, mais c'est incroyablement, ça reste un grand bonheur, c'est une grande chance. Hein. Et quelque chose qui me touche beaucoup comme ça, dans ce mélange un peu improbable entre l'instinct et l'intelligence.
Vous avez écrit il y a peu... pour Vanity Fair, un très 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 long papier, un long portrait sur Isabelle Adjani. Mmh. Fascinante, s'il en est, parmi toutes nos grandes actrices. C'était une rencontre part.
Ça ne peut pas se refuser. J'ai cette chance qu'on me propose beaucoup d'écrire des portraits ou des articles. Je n'ai pas le temps et je refuse parce que c'est beaucoup de travail et puis il faut s'impliquer. Mais là, quand Vanity Fair m'a appelé pour me dire « on pense à toi pour écrire le grand portrait, la couverture d'Isabelle Adjani », moi, rencontrer Isabelle Adjani, je ne peux pas dire non. Même si j'ai été stressé pendant des semaines et j'ai revu tous ses films et j'ai beaucoup travaillé. J'ai passé 4 heures avec elle pour cet entretien. Puis on s'est échangé après beaucoup de messages. J'ai fait beaucoup de choses l'année dernière, des films, des livres. Mais je pense que ça reste le moment le plus... J'ai été ébloui par cette femme. Vraiment.
Alors,
d'abord, elle est d'une intelligence totale.
Oui, rare.
Une
ça,
culture
on le sait, mais pendant ces
inouïe.
4 heures, en tête à tête avec Adjani... Il y a eu un moment particulier où soudain, vous avez senti que l'instant était rare, vous étiez réellement face à la légende méritée.
Ben, elle m'a dit beaucoup de choses qui étaient assez rares finalement, et c'est ce que j'ai raconté dans le papier. Elle a notamment parlé beaucoup du rapport à sa mère. Et c'est vrai qu'elle s'est confiée assez librement. Alors c'est une rencontre un peu particulière quand on doit écrire un article. Puisque je l'interrogeais d'une certaine manière. Si j'avais passé 4 heures avec elle, l'échange aurait peut-être été plus libre. Mais à un moment donné, dans ce type d'entretien, je dois lui parler de son rapport à son corps, de Daniel Day-Lewis, de ses enfants.
Ouais.
Donc il y avait des choses qui ne sont pas trop de mon tempérament, finalement. Mais elle a vu que j'ai essayé de les aborder avec le plus de courtoisie ou de délicatesse. Et puis surtout, je pense qu'elle a vu que j'étais, si j'ai accepté de réaliser ce portrait, c'était que j'étais animé par une véritable admiration.
Oui.
Quand on parle d'aimer les acteurs, je veux dire, c'est inoubliable. Hein. Isabelle Adjani, que ce soit dans La Reine Margot, dans Camille Claudel, dans Adèle H, on vit avec tous ces personnages.
David Foenkinos, vous me disiez, il y a 5 ans, on ne se sent jamais totalement écrivain. Vous la nuanceriez, cette phrase, aujourd'hui?
Oui, c'est vrai que c'est
ou vous la gardez intacte?
C'est chez vous que j'ai dit ça, parce qu'après,
oui,
on me l'a ressorti, je me dis,
oui,
mais...
vous la gardez intacte ou bien...
Je ne la garde pas tout à fait intacte,
alors,
j'ai bien fait de revenir.
Nous.
Non, si je peux me permettre, c'est vrai que je pense que moi, je me sens totalement, pleinement, follement écrivain, c'est toute ma vie d'écrire. Mais je comprends tout à fait pourquoi j'ai pu dire ça, parce qu'en fait, on est traversé toujours par la fragilité, le doute, l'incertitude. J'ai l'impression que ça ne s'apprend pas, j'ai l'impression que ça peut se défaire. J'ai l'impression que quand je commence un roman, quand j'ai plus d'idées, que je ne suis plus capable de le faire, et que ce n'est pas une position assise, ce n'est pas une position stable, il n'y a aucun socle. Donc, on ne se sent jamais tout à fait dans une position absolument définie, en fait, quand on écrit. Mais j'ai davantage envie de dire que je me sens écrivain.
Deux sœurs vient de paraître chez Gallimard. Ce roman est à la fois doux et acide, glaçant, hypnotique, puissant en tout cas. C'était formidable de voyager en votre compagnie. Je vous dis à très bientôt.
À très bientôt. Merci à vous, Isabelle.
Je vous embrasse. Au revoir.
Moi aussi.